Se sentir enfin chez soi, ça paraît évident. Mais pour Léa et sa famille, c'est la fin de plusieurs années de galères passées de foyer en foyer. En inscrivant le Secours catholique comme bénéficiaire de votre assurance vie, vous pouvez permettre à d'autres familles de vivre enfin dans un logement stable et rassurant, à d'autres enfants de suivre une scolarité normale et d'avoir un jour la chance de construire leur avenir. Sur la terre comme au ciel, continuez vous aussi le combat pour la fraternité. Découvrez comment transmettre votre assurance vie au Secours catholique sur assurancevie.secours-catholique.org.
14h, 14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
C'est en rangeant des papiers qui me viennent de mon ami Laurent Le Châtelier, grand documentaliste avec lequel, plusieurs années durant, j'ai préparé tous mes récits radiophoniques. C'est en classant des documents qu'il avait réunis au milieu des années 70 que je suis tombé sur cette histoire qui m'a paru tellement intéressante que, de toute façon, je ne pouvais pas résister à l'envie de vous en faire profiter. Alors, je vais vous parler d'un artiste dont le talent aurait pu lui permettre de laisser un nom dans les annales de l'art. Et, vous l'aurez compris, c'est plutôt dans celle de la justice qu'il aura finalement brillé. Je veux parler de Jean de Sperati. Nous faisons sa rencontre à travers le grand intérêt que lui a porté au milieu des années 50 le commissaire divisionnaire Guy Isnard. Isnard était un passionné d'art et de trafic d'œuvres. Ancien commissaire divisionnaire à la direction de la police nationale, il avait créé son propre service qui était la section chargée des contrefaçons et des faux en matière artistique. Mon ami Laurent explique que les escrocs étaient pour lui, d'une certaine manière, moins difficiles à combattre que les experts. Les experts honnêtes, les escrocs malhonnêtes, certes, mais aux yeux du commissaire, si l'expert a le droit de se tromper, il met toujours beaucoup plus de réticence à avouer son erreur. Et la parole d'un expert, vous le savez, fait autorité devant la loi. D'ailleurs, depuis l'époque du commissaire Isnard, la jurisprudence de ce point de vue a beaucoup évolué. Quant à l'escroc, eh bien, l'escroc, sauf quand il s'en prend au plus déshérité ou qu'il abuse de la charité publique, disons que c'est le plus sympathique des malfaiteurs. Il n'est pas violent. Ses armes sont le cerveau qui conçoit, la main qui façonne et la langue qui ensorcelle. C'est ainsi que le commissaire Isnard a pu traquer avec succès toutes sortes de faussaires. Oh, il en a traqué des dizaines, que dis-je, des centaines. Tout ça sans revolver, bien entendu, ou quasiment toujours sans revolver. Chaque fois, il ne se lassait pas d'admirer le génie des artistes auxquels il était confronté, et l'intelligence avec laquelle ils étaient capables d'aller très loin pour tromper le gogo. L'escroquerie est une œuvre d'art. C'est ce qu'avait dit Maître Floriot, vous savez, le grand avocat d'assises. L'escroquerie est une œuvre d'art. Eh bien, on peut dire que Guy Isnard, lui, ira plus loin. Il va organiser en 1955 une exposition au Grand Palais, exposition réunissant plus de 2000 faux et qu'il avait baptisé « Les faux dans l'art et dans l'histoire ». Inutile de vous dire que l'expo en question a été un très grand succès. Les billets se sont littéralement arrachés. Chacun voulait entrer dans cet univers assez magique, peut-être plus magique d'une certaine manière que celui des véritables artistes, enfin des artistes officiels en tout cas. Presque tous les faussaires que le commissaire a pu rencontrer au cours de sa carrière, travaillait dans la peinture. Mais le maître incontesté du faux, selon lui, aux yeux d'Isnard, c'est dans la philosophie qu'il l'a finalement trouvé. Pour tous les philatélistes du monde, le meilleur faussaire reste le fameux Jean de Sperati, que connaissent évidemment tous ceux qui, parmi nos auditeurs, se sont intéressés un jour ou l'autre au timbre. C'était un Italien d'origine, il avait été marchand de pâtes alimentaires au départ, Jean de Sperati. Il s'était installé à Paris en 1909 et assez vite, il a fait de bonnes affaires. Peut-être de trop bonnes affaires, puisque ça lui a permis de s'intéresser aux marges du marché de l'art. Il a commencé par augmenter sa collection de timbres et puis, ne pouvant pas avoir certains des timbres qu'il convoitait, eh bien, il s'est mis à les fabriquer lui-même. Et voilà le début d'une prodigieuse carrière d'escroc émaillée de toutes sortes de démêlés avec les experts et avec la justice. Jean de Sperati, Alors, il faut que vous l'imaginiez assez grand, même un peu filiforme, avec un visage très sec. Ce qui frappait le plus dans ses traits, c'était ce regard qu'il avait avec ses petits yeux brillants en perpétuel mouvement, des yeux auxquels rien ne paraissait échapper et qui détaillaient tout avec la précision d'un microscope. Le commissaire Isnard ne rencontrera Jean de Sperati, ne le verra vraiment qu'en 1955. Il va avoir à ce moment-là pas mal de conversations avec lui. Et le vieux faussaire va se confier. Il va raconter comment il a trompé la terre entière pendant toute sa vie. Il aimait à faire connaître son talent, cet homme-là. Et c'est le problème des faussaires, c'est que souvent, leur talent, par définition, reste inconnu. Et pour cause, il aimait duper les experts, Jean de Sperati. Il va même déclarer avec une étonnante bonne foi évidente, même « Moi, faussaire, mais jamais de la vie, je suis un artiste, monsieur le commissaire. Je suis même le créateur de la philatélie d'art. »
Franck Ferrand sur Radio Classique.
En 1932, Jean de Sperati avait envoyé à Lisbonne 18 timbres de grande valeur et bien entendu, la douane les a fait vérifier, expertiser sous tous les angles pour vérifier leur authenticité, évidemment. Le plus étonnant, c'est que Sperati ait été poursuivi et dû payer 300 000 francs d'amende pour tentative d'exportation illicite de capitaux. C'est-à-dire qu'en fait, on lui a reproché d'exporter de ce qui était d'une certaine manière considérés comme des valeurs, puisque c'était des timbres très importants, mais personne ne s'est rendu compte qu'il s'agissait de faux. Et évidemment que pour Sperati, cette condamnation a été plutôt finalement une bonne nouvelle. En 1935, c'est une maison de timbres d'Amsterdam qui va porter plainte contre lui. Cette maison lui avait acheté des vignettes qui semblaient être des originaux parfaitement authentiques. Elle les avait vendues aux enchères publiques pour une somme importante. La supercherie n'a été découverte que bien après. Et c'est le genre de scénario qu'on va voir se reproduire un peu partout, en Europe. On peut pas dire que Sperati ait jamais été véritablement inquiété, ne serait-ce que parce que, comme il dupait de grands experts, ceux-là n'avaient pas tellement intérêt à mettre en avant l'erreur qu'ils avaient commise. On va dire que toute sa vie, Jean de Sperati va pouvoir continuer sa profitable industrie. Il habite sur les bords du lac d'Aix-les-Bains, une très belle lac du Bourget. Hein. Il habite une très belle villa qui s'appelle Claire de Lune. Et c'est dans cette villa qu'il travaille. Alors, évidemment qu'il faudrait entrer dans le détail de chacune des affaires, mais c'est assez amusant de voir que finalement, la honte de s'être fait abuser, et surtout le très grand dommage que cela aurait pu porter à un certain nombre d'experts ou de collectionneurs, a fait que la justice avec Sperati se sera globalement montrée extrêmement indulgente. Il le répète au commissaire Isnard hein, quand il raconte son histoire. « Non, non, lui dit-il, je ne suis pas un faussaire, puisqu'en 1932, lors de mon affaire avec la douane portugaise, j'en ai profité pour informer le monde entier que je pouvais effectuer des imitations telles que personne jamais ne pourrait s'en apercevoir. J'ai annoncé moi-même à ce moment-là que les timbres étaient de ma fabrication. Je l'ai fait moi-même. » Vous avouerez quand même que c'est un étrange bonhomme, lui qui, toute sa vie, avait trompé les collectionneurs de toute l'Europe et même du monde entier, essayait désormais de poser aux redresseurs de tort.
Thank you.
tarentelle pour piano de Léon Cavallo était interprétée ici par Roberto Galletto.
Vous écoutez Radio Classique.
Alors, pendant toutes les années 30, les choses se passent plutôt bien pour Sperati. Et puis, pendant la guerre, il va quand même avoir quelques ennuis, non pas avec les belligérants, mais avec un certain nombre de clients mécontents, et notamment un expert parisien. Alors là, c'est pas de chance. Il se trouve qu'un jour, dans la même semaine, un expert parisien reçoit de deux sources différentes des faux qui, évidemment, étaient absolument identiques. Ah, là, ça permet... Ça, c'était pas de chance, si je puis dire. Le hasard avait mal fait les choses. L'expert a alerté la chambre professionnelle, qui a déposé plainte contre Sperati, et puisque c'est lui qui a très vite été retrouvé comme fournisseur des deux pièces en question. Alors, il s'est à l'époque défendu d'avoir voulu vendre ses contrefaçons comme des timbres authentiques. Et d'ailleurs, il a simplement été convaincu de tentative d'escroquerie. Il a écopé d'une sévère amende, mais est passé quand même à travers les mailles du filet. La plus spectaculaire des affaires dans lesquelles aura trempé Sperati, elle a lieu à la fin de 1943 et au début de 1944, on est donc toujours sous l'occupation, et c'est l'affaire du professeur Locard. Locard était le plus grand philatéliste du temps, enfin l'un des plus célèbres experts, et après un examen très attentif, une première fois le 12 juillet 1943, une deuxième fois le 4 janvier 1944, il avait conclu à la parfaite authenticité des timbres qu'on venait de lui présenter et qui avaient été incontestablement fabriqués par le faussaire. On peut dire que la réalisation de Sperati était tellement parfaite qu'il avait fallu plusieurs contre-expertises extrêmement minutieuses pour découvrir cette supercherie. Sperati avait certes été condamné, mais en vérité, il s'en moquait. Une fois de plus, d'une certaine façon, par l'absurde, il venait d'être consacré comme le plus grand des faussaires. Lorsqu'il a senti la fin de sa vie approcher, on est en 1954, Sperati a mijoté une fabuleuse opération publicitaire. Il était là au fait de sa gloire et il se devait de quitter la scène avec éclat. Il se devait d'assouvir aussi la haine qu'il éprouvait contre les experts. Et ça, c'est souvent l'un des motifs d'action des faussaires qui veulent constamment dénoncer les impostures de l'expertise. C'est le journal France Soir qui, le premier, va faire sa manchette de l'affaire. On peut lire à la une de France Soir à l'époque « Jean de Sperati vend 10 millions sa collection de faux timbres à une association de philatélistes anglais ». Aix-les-Bains, 30 avril, et c'était donc une dépêche de France Soir. Une transaction d'un genre un petit peu particulier, donc, vient d'intervenir entre la British Philatelic Association et le philatéliste français Jean de Sperati, qui avait donc été déjà plusieurs fois poursuivi pour faux. L'association britannique a racheté à Sperati toute sa collection de faux timbres. À l'époque, il y en avait 600. Et Jean de Sperati s'est engagé dans le contrat à ne plus imprimer de fausses vignettes et à ne pas initier un éventuel successeur au secret de fabrication qu'il lui avait fallu tant d'années pour acquérir. Et voilà, c'était énorme, incroyable, mais d'authentiques philatélistes venaient de choisir pour roi, pour idole, si je puis dire, l'homme qui, pendant tant d'années, leur avait causé des torts immenses, tant d'un point de vue financier, bien sûr, que d'un point de vue moral. Sa majesté du timbre, comme l'a appelé Laurent Le Châtelier, Jean de Sperati, pouvait donc mourir tranquille. C'est ce qu'il va faire en 1957. Mais le destin allait avoir une ultime vengeance envers cet homme qui avait su épouser et maîtriser les passions de ses semblables tout en se moquant un petit peu de la crédulité générale. En effet, le marbrier qui grava la pierre tombale du méticuleux faussaire a fait une faute d'orthographe involontaire, mais assez impardonnable. Le texte était pourtant simple, on pouvait y lire « Jean de Sperati, 1884-1957, créateur de la philatélie d'art ». Sauf que le graveur a mis « créateur » avec un beau « H ». Ah, c'est ce qui s'appelle faire un terrible faux. Cette troublante histoire aurait pu se terminer sur cette histoire de, sur cette affaire de tombe, mais il se trouve qu'il n'en fut rien parce que Sperati, n'ayant jamais livré son secret à quiconque, les choses allaient demeurer comme cela en suspens. Même le commissaire Isnard qui lui avait demandé par faveur de lui expliquer comment il avait réussi à faire des timbres aussi vrais tout en étant aussi faux, même le commissaire Isnard n'a pas pu obtenir de réponse, moyennant quoi les faux ont continué à circuler. Bien sûr. Toccata du concerto pour basson de Nino Rota était interprétée au basson par Alarico Lenti, accompagné par l'orchestre symphonique Giuseppe Verdi de Milan, sous la direction de Giuseppe Grazioli.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Mais si je vous livrais le secret de mes procédés, monsieur le commissaire, tous les faussaires les utiliseraient pour des besognes bien plus répréhensibles, par exemple pour fabriquer des faux billets de banque, et ça il n'en est pas question, parce que moi, monsieur le divisionnaire, je suis un artiste, je suis le Rubens de la philatélie. D'ailleurs, je compte bien publier mes œuvres, oui, ce sera une collection numérotée de 1 à 100 exemplaires, dûment signée, et chaque vignette adhérera à son support. Et il ajoutait avec une mégalomanie un peu naïve, ce sera une collection d'une valeur immense car elle sera absolument infalsifiable. Ah oui, ça on peut lui faire confiance. Quand on sait que Sperati osait écrire sur l'encadrement de ses faux la mention « reproduction interdite » et qu'il signait en bas de son nom au crayon, on comprend mieux de tels propos. Il faut vous dire quand même que ces fameuses œuvres numérotées n'ont quand même jamais été publiées.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Sperati, finalement, n'a laissé à la postérité qu'un seul manuscrit, la technique complète des timbres d'art, 119 pages dactylographiées, divisées en 9 chapitres, où il dévoile ses méthodes avec tout de même pas mal de précision, mais en restant suffisamment vague sur les phases les plus cruciales du travail. Il traitait le papier avec du savon de résine, de la colophane, de la sandarac, du mastic, de la gomme laque, pour reproduire les tampons postaux. Il prenait un timbre authentique, absolument ordinaire, de faible valeur, mais dont l'oblitération n'était pas très nette. Et puis, il blanchissait complètement la vignette, en épargnant évidemment l'oblitération. Et ensuite, il avait un papier blanc oblitéré sur lequel il imprimait un timbre d'une valeur infiniment plus élevée, vous comprenez. Et pour le gommage, eh bien, il mettait le verso du timbre au contact d'une couche de gélatine étalée sur une plaque de verre. Alors, quand on vous dit ça comme ça, vous dites « Ah bon, mais moi je saurais faire de faux timbres ». Évidemment, on se dit que n'importe qui pourrait en fabriquer, mais la vérité, c'est que la recette que nous livre Sperati est systématiquement incomplète. Et il manque évidemment, le petit truc qui fait la différence, et puis il manque, disons-le, cette espèce de don, cette foi en soi-même qui fait que quelqu'un est capable de se surpasser, d'aller plus loin et de devenir de devenir le maître dans son domaine. Ce n'est pas tout de connaître la recette. C'est un peu comme quand vous savez, ces grands chefs qui en cuisine vous donnent des recettes qui ont l'air très simples et quand vous les faites, ça n'a absolument rien à voir avec ce que vous avez eu dans l'assiette lorsque vous étiez au restaurant. Et pour cause, parce que il y a les petits secrets de fabrique et puis il y a surtout le don, il y a le tour, il y a la patte du génie, vous voyez, du grand créateur. Et en l'occurrence, lorsqu'on était en présence d'un timbre de Jean de Sperati, eh bien, on était bien obligé de constater qu'il y avait là un savoir-faire que personne n'est capable d'atteindre, que personne n'est capable, ne serait-ce que d'égaler. Il y a bien sûr le coup de crayon impeccable, il y a bien sûr l'intelligence à l'œuvre, il y a cette capacité de mimétisme extraordinaire. Et je pense que dans le domaine du faux, que ce soit dans le domaine de l'art ou des faux billets, des faux timbres, etc., ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est la capacité fantastique à reproduire la réalité. Il m'est arrivé de travailler d'assez près, pour tout vous dire, sur certains tableaux qui sont des copies extrêmes. Alors vous avez la copie qui se présente comme telle, c'est-à-dire un tableau d'un format légèrement différent, avec des pigments de nature différente, qui ne cherche pas à tromper l'expert, qui veut simplement copier, reproduire une très belle œuvre. Bon, ça, très bien. Et puis vous avez parfois cette copie exactement au format, réutilisant les bois, les essences, exactement les pigments, exactement les diluants de l'époque, et les vernis et les glacis. Et là, vous vous dites, mais presque il y a quelque chose de diabolique dans la volonté de reproduire, de créer pour la deuxième fois une œuvre. C'est ça le grand faux, et c'est à cette altitude-là que respirait Monsieur de Sperati, si vous me permettez de l'appeler ainsi. Il y a quelques années, c'était en 2014, un grand marchand philatéliste a mis en vente un timbre d'un franc vermillon pour 500 euros. Et le timbre en question était vendu dans un catalogue philatélique, s'il vous plaît, était vendu pour un faux de Sperati. Il était présenté comme tel. Alors je vous donne cet exemple parce que en faisant mes petites recherches, j'ai trouvé celui-ci. Mais pour tout vous dire, on en trouverait bien d'autres de ces timbres de Sperati, peut-être même avec des cotes encore plus élevées, car il s'agit bien, bel et bien, de petits chefs-d'œuvre de mystification qui sont en même temps, comme on aurait pu dire, un hommage que le vice rend à la vertu, un hommage rendu par un créateur de génie à ce qu'il y a d'extraordinaire dans la philatélie. Les timbres de Monsieur de Sperati se vendent infiniment plus cher, souvent, que la cote même d'un timbre authentique, preuve, s'il en fallait, que le talent finit toujours par être reconnu.
Vous écoutez Radio Classique.
Se sentir enfin chez soi, ça paraît évident. Mais pour Léa et sa famille, c'est la fin de plusieurs années de galères passées de foyer en foyer. En inscrivant le Secours catholique comme bénéficiaire de votre assurance vie, vous pouvez permettre à d'autres familles de vivre enfin dans un logement stable et rassurant, à d'autres enfants de suivre une scolarité normale et d'avoir un jour la chance de construire leur avenir. Sur la terre comme au ciel, continuez vous aussi le combat pour la fraternité. Découvrez comment transmettre votre assurance vie au Secours catholique sur assurancevie.secours-catholique.org.